Moi, mais avant toute chose, on va prier. Et je crois même qu'on va se permettre de prier pour la situation qui prévaut ces temps-ci, différentes attaques qui ont été perpétrées, des attentats. Je regardais tantôt les actualités. Et on disait qu'en Autriche, il y avait eu un attentat aussi. Et je partageais avec quelqu'un aujourd'hui que la Bible nous dit que dans la fin, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire de tous les événements. Et on peut s'apercevoir que dans les temps où on vit, la Bible ne nous dit pas les raisons pour profonde, elle nous en dit une partie, mais les raisons, toutes les raisons profondes de l'angoisse chez la nation, mais visiblement que la Bible, la parole de Dieu, ne se trompe pas. Si elle nous a dit qu'il y aurait de l'angoisse, eh bien, cette angoisse-là se manifeste chez les nations au moment où l'on parle, et il se produit en divers lieux différents événements qui ébranlent les gens, qui ébranle un peu la communauté internationale, qui ébranle les sociétés, voire les villes. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que devons-nous faire? Nous devons, somme toute, avant tout, prier. Et c'est ce que nous allons faire pour ouvrir. On va ouvrir, oui, pour le cours, mais on va ouvrir, on va prier pour ces choses-là d'abord. Donc, Seigneur, nous remettons entre tes mains, Seigneur. Ces pays, ces villes, Seigneur, y compris ça s'est passé à Québec, dans la ville de Québec. Là, ça se passe en Autriche. Ça s'est passé en Europe, en France. Il y a différents événements qui poussent pour des raisons idéologiques ou pour des raisons de santé mentale. L'angoisse chez les nations augmente, les gestes qui sont posés augmentent encore l'angoisse. Et nous, Seigneur, nous prions maintenant. Ce soir, nous remettons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, nos sociétés, nos gouvernances, l'époque à laquelle nous vivons, Seigneur. Nous, Seigneur, tu nous as dit que tu nous laissais ta paix. Mais ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas cette paix, ne peuvent qu'être qu'angoissés, mon Dieu. Ô Dieu, je te demande, Seigneur, appose un baume, Seigneur, sur ce monde. Sur ce monde, Seigneur, qui est dans l'angoisse. Je prie, Seigneur, pour cela, afin que tu puisses te révéler à travers ces douleurs, à travers ces soubresauts de ce monde. Que tu puisses te révéler, révéler ton plan divin, Seigneur, et amener, Seigneur, des peuples, des nations, des individus à te reconnaître et à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Je demande, Seigneur, aussi pour ce cours que nous allons prendre. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse, de ton intelligence, Seigneur, et donne-nous notre pain quotidien. J'ai fait cette simple prière, sachant que tu peux faire bien au-delà de mes mots. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. On reprend notre étude. La semaine dernière, on a regardé, on s'est beaucoup attardé sur le millénium. On a regardé de quoi serait composé le millénium. J'espère, par la grâce de Dieu, que j'ai pu vous apprendre quelques petites choses, peut-être que vous ignoriez concernant le millénium, entre autres qu'on marcherait avec les hommes, que la mort ne serait pas complètement bannie et que, y aurait une gouvernance. Y aurait dans cette gouvernance-là théocratique des gens mises en poste. Il y aurait des reconstructions de faits, vu qu'il y aurait eu des grandes guerres, des grands cataclysmes, il y aurait des reconstructions de faits, il y aurait un tissu social à reformer et ainsi de suite. On a vu ça lors de l'intervention de la semaine dernière. Et on avait regardé concernant le millénium. Là, on va regarder concernant. On ne le regardera pas tout ce soir, il y a beaucoup d'éléments, mais on va regarder concernant l'éternité d'après le temps. C'est-à-dire, il y a le temps qui a été créé, comme je vous ai déjà expliqué, entre deux éternités. Dans ce temps-là qui est départi dans la mesure de temps, il y a un temps spécifique ou une dispensation qu'on appelle le millénium, où Dieu va régner à partir d'une gouvernance théocratique. Et après le millénium, on va tomber dans l'éternité, si vous voulez, d'après le temps, et la boucle va être bouclée. Donc, vous tournez dans vos Bibles, dans Apocalypse, au chapitre 20. On va prendre pour débuter les versets 7 à 15 d'Apocalypse 20. On va continuer notre lecture d'après le millénium. Le verset 7 commence en nous disant: Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète qui ont été là, mis là en début de millénaire? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, et non pas dans ce livre qui est le livre de vie, mais dans ces livres-là qui ont été ouverts avant. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Lecture faite, donc dans le verset 7 du chapitre 20, on voit Satan qui est libéré de l'abîme. Il avait été mis là, prisonnier, pour une période de 1000 ans au verset 3 qu'on a pris la semaine dernière, qui était l'ouverture du millénium. Et dans le verset 3, on nous disait, il faut qu'après le 1000 ans, il faut qu'il soit délié. Et on avait regardé un peu le pourquoi du il faut qu'il soit délié. Pourquoi faudra-t-il qu'il soit délié après 1000 ans? Ça va montrer et ça va aussi mettre en place un choix, comme je vous avais expliqué. Ça va montrer que malgré le 1000 ans d'incarcération, Satan n'aura pas été réformé. Ça va montrer qu'aucun châtiment a pu le corriger, encore moins le transformer. D'autre part, après le 1000 ans, l'emprise qui va exercer, comme on vient de le lire là, 2 minutes, l'emprise qui va exercer sur l'homme, sur les hommes qui vont avoir repeuplé la terre, l'emprise qui va exercer sur eux va aussi montrer, deuxième chose, va aussi montrer que le meilleur environnement ne transforme pas le cœur de l'homme irrégénéré, que malgré que l'homme va être placé dans une position optimum pour accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, pour marcher avec Jésus, qui va voir la gouvernance théocratique, tout le monde va manger, il va avoir une prospérité, il va avoir une restauration planétaire de la nature. On a vu la semaine dernière que les races ne se feront plus la guerre, même la nature biologique, les animaux ne seront plus en lutte constante pour la nourriture. La nourriture va être abondante. La forme pour le règne animal de se nourrir va même être transformée. Et malgré tout cela, malgré une bonne gouvernance, malgré la prospérité, malgré l'absence de famine, malgré l'absence de guerre, malgré l'absence du mal en tant que chose qui régnerait sur le monde, le mal va être contenu, le mal va être mis à sa plus simple forme d'agissement, soyons clairs. Quand quand Satan va être relâché, première chose qu'il va faire, il va retourner séduire les nations qui vont répondre oui. Qui vont répondre oui. Deuxième chose que ça va approuver, c'est que le monde, malgré un environnement adéquat, exceptionnel, voire paradisiaque, vont retomber facilement sous l'emprise du diable après les 1000 ans de paix. Donc, le meilleur environnement ne saurait restaurer, réformer une nature humaine déchue. Parce que ça va être ça, là. On va côtoyer les ressuscités, si vous vous rappelez bien, on va côtoyer des humains sur la terre. Non régénéré. Comme je vous avais dit la semaine dernière, peut-être que la majorité des gens qui vont être là, quand Christ va revenir sur terre, vont accepter l'Évangile, vont accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel. Mais les enfants des enfants des enfants, à la 4e, 5e, 6e génération, va se passer un peu ce que je vous avais expliqué avec les Juifs dans le désert, qui avait vu la nuée, qui avait vu l'eau sortir du rocher, qui avait vu la manne, qui avait vu des miracles à leur faveur. Pour eux, c'était une chose tout à fait naturelle et naturellement, ça va être un peu cela qui va se passer. On va voir que l'homme va être toujours susceptible au mal à cause de son cœur impénitent. Il va être tout à fait disposé, en grande majorité, pas en totalité, mais en grande majorité, à se donner à la révolte que Satan va vouloir instaurer pour renverser le camp des saints. Donc, le cœur de l'homme qui n'a pas accepté Christ reste désespérément, même dans le millénium, même à la fin du millénium, reste désespérément corrompu et trompeur. Satan, qui était lié pour 1000 ans, ne pouvait plus séduire les nations. Dès sa libération, va séduire, il va reprendre l'œuvre interrompue pendant 1000 ans d'emprisonnement. Il va la reprendre, puis il va s'acharner de nouveau contre les habitants de la terre pour les séduire. Et la parole de Dieu nous dit que sur son ordre, il va s'élever une nouvelle armée, si vous voulez, une nouvelle armée d'après du millénium, Gog et Magog, et je ne rentrerai pas dans les détails de qui sont Gog et Magog, on l'a vu au début du millénium, on a vu le prince de Gog, du septentrion en fait, envahir la Palestine. Et après ce temps-là du millénium, il va reprendre sa quête. Il va reprendre sa quête. Ce pays-là qui va avoir repeuplé, il va reprendre sa quête avec les nations que la Bible nous dit majoritaires des quatre coins de la terre. Quand on nous parle des quatre coins de la terre, on ne parle pas de quatre coins, on parle des quatre extrémités de la terre. À partir, si on regarde de Jérusalem, si vous prenez une carte, une map monde, vous allez voir Jérusalem, vous allez voir que Jérusalem est à peu près au centre du monde. La ville, là, je parle. Et c'est cette ville-là qu'ils vont vouloir investir. C'est cette ville-là, c'est ce camp-là des saints qu'ils vont vouloir investir. Une armée, sous les ordres de Satan, représentative des peuples, représentative de la planète entière qui va avoir repeuplé, particulièrement les personnes qui vont venir de loin pour cela, vont vouloir renverser la gouvernance théocratique que Dieu a instaurée 1000 ans auparavant. Les saints, le peuple de Dieu qui va être revenu sur la terre lorsqu'on va être revenu avec Christ, empressé à l'adorer, à le servir pendant le règne millénaire, vont former à Jérusalem un camp immense qui va déborder d'ailleurs. Une imposante forteresse de Dieu, si on peut dire ça de même, dont Satan et ses hordes vont décider de s'emparer. L'esprit de révolte qu'il va avoir à la fin du millénium va se propager sur la terre comme un feu, comme un incendie. Ça va être total, ça va être rapide, ça va être brutal. Et d'ailleurs, le châtiment va être tout aussi rapide. Le châtiment qui va fondre sur eux, sur les insurgés, va surgir du haut du ciel pour commencer, et va les consumer par le feu. Ça va être un jugement brutal, ça va être un jugement soudain. Il n'y aura pas de guerre, en fait, qui va se livrer. Ça va être trop soudain, trop brutal pour ça. Le verset 10 dans lequel on a regardé, le verset 10 nous dit, « Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Avant de souffrir à la croix, Christ avait dit, « Maintenant a lieu le jugement du prince de ce monde. » Et je vous avais dit un peu que le diable était en liberté conditionnelle. La liberté conditionnelle prend fin là, au verset 10. « Où il est saisi, il n'est plus que mis en prison, mais il est saisi. Et son jugement va devenir final, va devenir entier. Ce jugement, juridiquement inséparable de l'œuvre de Christ au calvaire, quand Christ dit « Maintenant, le jugement de ce monde a lieu avant sa crucifixion », va être appliqué maintenant dans toute sa rigueur à ce moment-là. Satan sera alors définitivement retiré de la circulation, définitivement jeté dans l'étang de feu de soufre qui était destiné à lui et à ses anges à l'origine, mais où le faux prophète et l'antéchrist se sont retrouvés aussi, et on va voir où d'autres vont se retrouver. Satan y rejoint ces deux personnages-là qui avaient été jetés là 1000 ans auparavant. La Bible nous dit qu'ils seront tourmentés éternellement, puisque le feu de la Géhenne en ces jours-là va brûler au siècle des siècles sans s'éteindre. Le verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Donc, le jugement qu'il va avoir sur Satan et sur son armée qui va se faire littéralement dissoudre par le feu, ce jugement-là qui va être un cataclysme tel que l'univers n'en a pas connu, va se produire à ce moment-là et un grand trône blanc va apparaître. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura plus de place pour le ciel et la terre qui vont s'enfuir de devant un grand trône blanc. Et on va voir plus tard que certains éléments peuvent être gardés de l'ancienne terre. Elle peut être refond, OK? Ce n'est plus trouvé pendant le jugement du grand trône blanc. Pourquoi le jugement du grand trône blanc existe-t-il? Naturellement, il n'existe pas pour les rachetés. Les rachetés, on a déjà passé en jugement. On a passé en jugement pour savoir quel type de récompense à laquelle nous avions droit. somme toute, selon le bien ou le mal, ou les œuvres utiles ou inutiles qu'on a fait étant dans notre corps. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est ce que je vous ai enseigné au cours de ce cours-ci qu'on a pris. La parole de Dieu a dit, on n'est pas destiné au jugement, mais à l'acquisition du royaume de Dieu, ce qui s'est passé au début des 7 ans de tribulation. On a eu nos récompenses, on a eu nos règnes, on a eu notre stabilité éternelle, on a eu nos corps glorifiés, donc on se trouve, nous, déjà dans un état stable, dans un état éternel, dans un état permanent, avec des corps qui ne peuvent se flétrir, des corps qui ne peuvent être malades, des corps qui ne peuvent vieillir, et on va se trouver dans un millénium comme ça, avec des gens qui, eux, vont être mortels. À la fin du millénium, comme on est en train d'expliquer, Satan est jeté en enfer, dans la Géhenne, et il y a un jugement à avoir, parce qu'il y avait eu la fin, si vous vous souvenez bien, de la première résurrection, qui dit première résurrection, dit qu'il y en a minimum une deuxième, et c'est ce qu'on appelle la résurrection des injustes, qui doit avoir lieu aussi. Donc, il va y avoir un jugement, et le trône qui est significatif ici, le jugement du grand trône blanc, il y a certains aspects à y voir, rapidement. Première chose qu'on peut y voir, les gens qui vont avoir refusé un si grand salut proposé par Christ, ce grand trône blanc-là va signifier un jugement, non pas pour leur salut, mais pour signifier, pour authentifier, comme n'importe quel tribunal, leur condamnation. Blanc, le trône blanc, signifie justice et équité, rien de souillé, et ça va être les caractéristiques de ce jugement-là suprême. Ça va être un jugement équitable, juste, et un jugement pur. C'est-à-dire que Dieu va amener devant les condamnés des livres avec tout ce qu'ils ont fait, le bien et le mal, et la balance entre les deux. Et le livre de vie aussi va être ouvert pour leur montrer que leur nom n'y apparaît pas. Le livre de vie ne servira rien de moins que de témoignage aux personnes qui vont recevoir le jugement. Le témoignage du livre blanc, c'est que vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas parce que les autres livres témoignent contre vous des œuvres non pardonnées. Pas que des enfants de Dieu, on est parfait, là. Des œuvres non pardonnées, non couvertes par le sang de Jésus, non expiées à la croix. Ces œuvres-là sont demeurées en témoignage contre vous. Versets 12 et 13. Et je vis les morts, les grands et les petits. Là, on ne parle pas d'enfants. On parle de grands dans le monde, c'est-à-dire les rois et ainsi de suite. Et petits, on est en train de parler de monsieur et madame tout le monde. Et on vit les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie, et les morts furent jugés, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Le séjour des morts, inséparable de la mort, vont rendre leur mort. Je vous avais expliqué lors d'une étude subséquente que maintenant, quand quelqu'un meurt en 2020, là, je meurs moi ce soir. Eh bien, aujourd'hui, les gens montent ou descendent. prendre l'ascenseur pour monter ou pour descendre. Vous comprenez là, que c'est une métaphore, là. Se retrouve dans le séjour des morts ou se retrouve dans la présence de Dieu. Je vous avais expliqué un peu comment la chose s'était faite lorsque Christ était mort, comment il avait été prêché dans le séjour des morts, du côté Saint d'Abraham, qu'on appelle Paradisos, ou du côté Hadès, qu'on appelle Sheol, où avait eu prédication, et Christ avait dit, dans 3 jours, je ressuscite d'entre les morts. Ceux qui ont cru par anticipation ont accepté. Donc, quand Christ ressuscite, la Bible nous dit, dans Éphésiens, dans Hébreu, la Bible nous dit qu'il a amené des captifs avec lui, et c'est pour cela que je vous avais expliqué qu'au matin de la résurrection, quand il apparaît à Marie, et que Marie veut lui toucher, il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je suis ressuscité. Et le soir, après qu'il ait été offert son propre sang dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, et qui a ramené ces captifs-là à la maison, se présente devant ses disciples et il leur dit à eux, touchez-moi. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre le matin de sa résurrection et le soir de son apparition aux disciples. Ce qui s'est passé, Hébreu nous l'explique. Il a été offrir son propre sang, ouvrir une nouvelle voie. Et quand un croyant décède dans le Seigneur, c'est cette nouvelle voie-là qui est empruntée par lui. Quand un non-croyant décède, il emprunte l'ancienne voie qui menait au séjour des morts, mais il y a une partie de vide, Saint d'Abraham ou Paradisos, qui est vide, et l'autre partie, elle est bien engraissée par ceux qui refusent l'Évangile. Donc, ceci étant dit, ici, on voit le séjour des morts et la mort être personnifiés. Ils vont se retrouver, eux aussi, dans l'état de feu et de soufre. Pourquoi personnifier et envoyer là? Pour nous montrer la stabilité maintenant éternelle de la condition de ceux qui restent. Regardez bien. La mort, le séjour des morts vont rendre leurs victimes. Et tous, petits et grands, c'est-à-dire soit les misérables, les riches, les puissants, que ce soit n'importe qui, vont se trouver en état de comparaître devant le grand trône blanc. Et je précise encore là, qu'il ne s'agit pas ici de ceux qui sont sauvés. Il s'agit exclusivement des perdus, puisque les rachetés, vous et moi, qui avons eu part à la première résurrection, et de ce fait, plus à comparaître devant aucun tribunal, ni celui du grand trône. Et j'ai répondu à votre question aussi, si la question était, pourquoi le livre de vie? Le livre de vie, je vous ai dit que sa raison d'être était un témoignage, d'apporter la preuve que leur nom ou le nom des perdus n'y figure pas. L'Écriture affirme à 42 reprises que l'homme doit être jugé selon ses œuvres. Nous, on va être jugé aussi selon nos œuvres. Mais notre péché est effacé selon les œuvres bonnes ou inutiles qu'on va avoir faites. Notre jugement se base là-dessus. On n'est pas jugé pour savoir si on obtient la vie éternelle. La vie éternelle, elle est gratuite. Elle nous a été donnée par la vie de Jésus. Elle nous a été donnée par la résurrection du Christ. Donc, on va avoir des récompenses. Un va être plus récompensé que l'autre parce qu'un va avoir plus investi que l'autre dans le royaume de Dieu. Et je ne vous parle pas de sous. Là. Va être plus investi, y compris les sous, mais va être plus investi dans le royaume de Dieu, va avoir mis du temps dans le royaume de Dieu, va avoir mis de la consécration dans le royaume de Dieu, va avoir mis son être, son cœur, son temps, son argent, ce qu'il est dans le royaume de Dieu. L'autre qui va avoir choisi, lui, un salut de moindre intensité, le salut et le reste, le salut, mais lui va avoir répondu en disant, Il y a déjà quelqu'un qui m'avait déjà dit à moi, « Moi, pasteur, tout ce que je veux, c'est être sauvé. » Je dis, « OK. » Il dit, « Tout ce que je veux, c'est être sauvé. » Il dit, « Admettons que le ciel, c'est la place des arts. Puis que, y a une bonne orchestre. » Je dis, « OK. » Il dit, « Moi, tout ce que je veux, c'est être dans la place des arts quand la porte va se fermer. » Il dit, « Je peux être assis à terre, en arrière. » Ou à côté sur un mur. Il pensait me montrer un peu une marque d'humilité en me disant, tu sais, même si je suis assis à terre, c'est bon. J'ai dit, mais mon ami, tu es en train de me dire que tu es paresseux. Il dit quoi? Je suis en train de me dire que tu es paresseux, que tu ne veux pas travailler pour le royaume de Dieu. Parce que marcher avec Jésus coûte quelque chose. Suivre Jésus coûte quelque chose. Ça le coûte. Tu es en train de me dire, tout ce que je veux, c'est le salut. Je veux juste être sûr de rentrer. Même avant que la porte se ferme, sauvé par la peau des dents. Mais je suis en train de me dire que tu es paresseux. Mon interlocuteur, m'ayant pas trouvé très intéressant à ce niveau, changea de sujet. Okay? Mais soyons clairs. Qu'on investisse de notre être, de ce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Il y a un salaire attaché à cela. On devrait dire Amen. Il y a un salaire attaché à cela. Celui qui travaille plus, a plus. Celui qui travaille peu, a peu. C'est ce que la parabole de Dieu nous dit. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. D'accord? Donc, la question ici, verset 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, c'est la seconde mort, soyons clairs. La seconde mort qui s'est déjà manifestée au verset 6, a été mentionnée au verset 6, correspond à la condamnation d'être jeté dans l'étang de feu de soufre. Le pécheur, cependant, là, au moment où on parle, dans 10 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, dans 50 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, a pour l'instant la possibilité de se repentir, de passer de la mort spirituelle dans laquelle il est maintenant à la vie spirituelle à laquelle Christ l'appelle, tout au long de son existence terrestre, donc que ce n'est pas une injustice. Quand je dis souvent aux gens, le but ultime de la vie, ce n'est pas d'avoir une maison, des enfants, ça me fait plaisir d'avoir une maison. Je regardais mon petit-fils aujourd'hui, avec qui j'ai passé une partie de la journée, entre certains téléphones que j'avais à faire, et je réjouissais de la vie de cet enfant-là. Et soyons clairs, ma prière pour lui, même s'il ne comprenait pas tout à fait ce que j'étais en train de faire, ma prière pour lui, c'était, Seigneur, donne-lui un cœur qui te cherche quand il va vieillir. Parce que le but ultime de la vie, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Le restant, c'est tous des accessoires que Dieu nous donne. C'est pas drôle à dire comme ça, hein? Mais le but ultime de la vie, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Dieu nous rend la vie agréable, nous donne un paquet d'accessoires. Une voiture, une maison, un travail. Il nous donne un paquet de choses. Et avec ce paquet de choses-là, il nous donne une mission. Allez et faites par tout le monde des disciples. Ça, c'est la grande commission. Ça, c'est le but. Ça, c'est notre travail. C'est notre investissement en attendant de rentrer dans l'éternité. D'accord? Donc, la personne qui est sur la terre maintenant a encore cette opportunité-là de rentrer dans l'immortalité avant sa mort. Quand elle va être morte, il n'y en a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de second jugement où Dieu te rappelle quelques centaines d'années plus tard pour voir si puis tu ne te sais arracher, es-tu prête à rentrer dans le ciel? C'est sûr que n'importe qui se retrouve dans la GN est prête à sortir une seconde après. Ce n'est pas de ça dont on est en train de parler. Donc, à part cela, tous les gens qui se retrouvent devant le grand trône blanc n'ont plus la possibilité d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Le jugement du grand trône blanc va sceller un état éternel. Le séjour des morts n'est donc plus nécessaire. Donc, qui est jeté dans les temps de feu. Et tous ceux qui sont morts maintenant sans accepter Jésus sont dans le séjour des morts, dans un état intermédiaire, si je peux dire ça de même, provisoire, dans un état d'âme où la souffrance est quand même présente, mais dans un état d'âme intermédiaire. Et je sais, quand on parle d'enfer, quand on parle de géant, ce n'est pas populaire. Les gens balaient ça, les gens ne veulent pas voir ça. Ils veulent un jugement sans justice. Ils veulent un jugement où Dieu est une sorte de Père Noël qui ne fait que distribuer des cadeaux et des bonbons. Mais qui dit jugement, dit justice. Donc, l'étang de feu et de soufre qui va accueillir les condamnés du jugement prononcé devant le grand trône blanc recevront, et ici, ce que je vais dire là, ce soir est dur, est difficile, recevront un corps, eux aussi. C'est ce qu'on appelle, en langage un peu biblique, c'est ce qu'on appelle, la Bible nous dit des choses de façon explicite et nous dit des choses de façon implicite. Si je vous dis que je suis chez moi et vous me voyez devant, ben devant la même bibliothèque que vous me voyez habituellement, donc vous savez que je suis dans mon bureau, si je vous dis que je suis chez moi, ben vous savez que je ne suis pas à Tokyo. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous savez, bien ami, je suis chez moi, donc je ne suis pas à Tokyo. Vous allez déduire de façon implicite que si je suis à un endroit, je ne suis pas là. La Bible nous dit des choses de façon explicite, puis elle nous dit des choses de façon implicite. Je vous le mentionne parce qu'ici, il y a une chose qui nous est dit de façon implicite. Ces gens-là vont recevoir un corps glorifié, immortel, qui ne peut pas se consumer dans la géhenne, puis ils vont devoir aller avec ça dans un feu éternel. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas joli, joli. Là. Et ce que je vous dis là n'est pas drôle du tout. Là. Mais c'est une réalité à laquelle on doit être instruit. Quand, surtout quand on annonce la parole, on doit dire des choses telles qu'elles sont. S'il y a une première résurrection, c'est qu'il y en a une deuxième. S'il y en a une deuxième, ce n'est pas nous. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Si la parole de Dieu nous dit que tous, petits et grands, se rendent devant le trône du jugement du grand trône blanc, c'est qu'ils reçoivent la possibilité, pas du salut, pas un choix non plus, ils reçoivent pour terminer, ils vont récupérer un corps. Comme vous et moi allons récupérer un corps glorifié, eux vont récupérer un corps glorifié, mais eux ne récupéreront pas la félicité du corps glorifié, mais le jugement qui va aller avec leur condition. Vont recevoir un corps indestructible qui peut supporter les tourments pour l'éternité. Un supplice que l'être humain, que vous et moi, on ne peut pas concevoir. Comme il y a eu une seconde naissance pour vous et moi, on est venu au monde une première fois, et quand on a accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, il y a une seconde naissance, de façon tout à fait logique. On va avoir une mort. Mais la parole de Dieu dit, on ne goûtera pas la seconde mort. Est-ce que vous comprenez? Eux vont avoir eu une mort aussi, mais vont goûter à la seconde mort, recevant un corps parfait et se retrouvant dans un état de souffrance pour l'éternité. Comment un Dieu de bonté peut produire cela? souvent les gens me disent, oui, mais Dieu est bon, pasteur. Dieu, c'est un bon Dieu. Dieu est bon. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, si je me rappelle bien, je vous cite un peu de mémoire, la parole de Dieu nous dit, en fait, que la bonté de Dieu, a dit que l'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour vos péchés. La bonté de Dieu, ce n'est pas à large, là, une autoroute à 6 voies là, qu'on fait ce qu'on veut dessus. La bonté de Dieu, c'est d'abord et avant tout un plan de salut. Donc, si on n'entre pas dans la bonté de Dieu, on entre dans la justice de Dieu. Soyons clairs. Le verset 15 nous dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » Et je sais qu'il y en a qui vont dire, « Non, non, c'est impossible. Dieu est bon, Dieu ne fera pas ça. Il va les détruire, ils vont se dissoudre. » Je préférerais que ce soit ça aussi, parce que je connais des gens que j'aime beaucoup qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Et je me dis que s'il devait leur arriver quelque chose, ils rentraient dans une condition semi-permanente de souffrance pour entrer ensuite de ça de plein pied à la fin des temps dans une éternité permanente de souffrance. Et quand j'y pense, moi aussi, ça me crée de la peine. Soyons clairs. Apocalypse, chapitre 21. Je veux nous avancer. Il nous reste peut-être encore la semaine prochaine, peut-être l'autre. Je veux terminer avant que vous m'abandonniez tous parce que c'est trop long. En ce sens, on reverra prendre peut-être un autre enseignement. Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 8. Là, on rentre dans l'état éternel. On a vu le jugement pour l'éternité. Là, on rentre dans l'état éternel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et le premier ciel avaient, le terme ici qu'on prend, disparu et la mer n'était plus. S'ils ont disparu, dissoudre, comme le terme dissoudre, eh bien, il est ajouté ici et la mer n'était plus là. Si la terre disparaît puis elle dissoudre, c'est sûr qu'il n'y a plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, là on rentre dans l'éternité. On rentre dans l'éternité d'après le jugement. Le jugement vient d'avoir lieu. Là. C'est le dernier jugement, le jugement du grand trône blanc. C'est le dernier jugement. Et regardez bien ce qu'on trouve ici. Je vous ai dit que vers la fin, on trouverait des choses qui peut-être heurteraient votre intellect, qui vous feraient poser peut-être des questions. Vous diriez, non, je n'ai jamais vu ça comme ça. Mais ne rejetez pas en bloc avant d'avoir bien prié, bien réfléchi, bien regardé la parole, la possibilité qu'il peut y avoir. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Nous, on n'est plus des hommes à ce moment-là. On est une autre ordre de création. Il y a eu l'ordre angélique. Il va y avoir l'ordre des ressuscités. Puis là, ici, on nous parle d'autre chose. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu parce qu'on en rentre dans l'état éternel. Ici, vous pourriez faire une séparation entre le verset 4 et le 5, parce que dans le 5, il dit, « Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il fait une déclaration d'entrée dans cette éternité-là. « Je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Jean, ici, écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, là, il est en train de revenir, il ne parle plus aux gens dans l'éternité. Ça s'est bouclé pour une partie au verset 4, et Dieu va faire une déclaration, la déclaration du verset 5. Et ensuite de ça, après la déclaration du verset 5, il va reprendre un peu plus loin. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je reprends le verset 6 et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc, depuis que nos premiers parents sont tombés dans le péché, dans la Genèse, le sol de notre globe a été maudit. Vous trouvez dans Genèse, tournez dans Genèse au chapitre 3, au verset 17, après la chute de l'homme, il y a des condamnations de justice qui sont données. Il dit des choses à la femme, il dit des choses à l'homme, puis il va donner un état de choses sur la terre, de nouvelles conditions dans lesquelles Adam et Ève vont devoir vivre, s'acclimater. Et regardez bien, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, au chapitre 3, verset 17 de Genèse, et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » La terre, depuis ce temps-là, s'est dégradée, 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 dégradée. Et l'homme a accentué par la pollution et ainsi de suite la dégradation de son habitat, qui aujourd'hui, admettons-le, est plus que jamais en état de ruine. L'homme a méprisé les lois naturelles de l'écologie. Et je ne suis pas en train là, de dire autre que qu'est-ce que la parole de Dieu dit et qu'est-ce qu'on peut voir aussi de nos yeux. De même que cette terre-là va être restaurée dans le millénium, après le jugement du grand trône blanc, la nouvelle Jérusalem, elle se pose sur quelque chose. Façon implicite de dire certaines choses. Soyons clairs, le ciel s'est enfui aussi. Pourquoi? Parce que le ciel a été souillé par la présence du prince de l'air, par Satan. C'est pourquoi que l'apôtre Pierre, lorsqu'il évoque l'état universel dans lequel on vit, parle de cieux et de la terre d'à présent qui sont appelés à disparaître ou à se fondre, si vous regardez mieux dans le livre de Pierre, pour une nouvelle création. D'ailleurs, plusieurs passages dans l'Ancien Testament confirment le Nouveau Testament. On va prendre Pierre, tourner dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 7. Là, on commence à expliquer l'état éternel. Je vous ai dit une chose qui peut vous paraître difficile à capter parce que généralement, on ne l'a jamais vu comme ça. Dans le verset 3, quand la parole de Dieu il dit « Voici le tabernacle de Dieu ». Un tabernacle, c'est une habitation. Quand les Juifs transportaient le petit coffre, la tente de Seigneur, c'était un tabernacle. Et ce tabernacle-là était un lieu de rencontre. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, en faisant descendre la Nouvelle Jérusalem, en refondant des choses, va garder certains éléments et le tabernacle va devenir le lieu où on vit. Mais avec des hommes, avec les hommes. Et Dieu dit, il va habiter avec eux. Va essuyer toute l'âme, ce qui ne sera plus de notre ressort à nous. Eux, ils vont essuyer toute l'âme, vont enlever toute douleur et ainsi de suite, va les rentrer à titre d'humain dans un état éternel. Je vous ai dit au début de mon intervention, quand on a commencé à étudier le livre de l'Apocalypse, je vous ai dit que Dieu n'avait pas formé de plan B. Nous, des fois, on dit, je vais faire ça, puis si ça ne marche pas, je me garde un plan B. Si ça ne fonctionne pas, je me garde un plan B. Dieu est Dieu, il n'a pas besoin de plan B. Il sait tout. Le plan A a été seulement que différé dans le temps. Mais Dieu fonctionne toujours sur le plan A. Qu'est-ce qu'était le plan A? Je vous en parle un peu, on va regarder un peu plus tard. Le plan A était quoi? Que l'homme et la femme, avec pouvoir de procréation, procréaient, sans que la mort n'intervienne. Jamais. Dans un état aussi éternel. Pas pour nous dire que depuis maintenant, pas loin de 5000 ans que la Terre existe. On existe plus que ça, mais ça serait sujet à débat, là. Soyons clairs. Qu'il n'y aurait plus de place sur la Terre. Si Adam et Ève n'auraient pas péché, il n'y aurait plus de place sur la Terre. Je vous ai déjà déclaré que notre Dieu est un économe. Notre Dieu ne gaspille pas ou ne produit pas des choses pour rien. Si Dieu fait des choses, tout a sa raison. Et, exemple de vous, je vous donne un exemple qui me vient là, vitement comme ça en pensée. Lors de la multiplication des pains, Jésus venait de prendre des petits poissons, un ou deux petits pains. Même à une place, il dit cinq pains, même cinq pains. Okay. Il a fait asseoir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il y avait des femmes et des enfants. Et il a nourri tout le monde avec ça. Puis la première chose qu'il a dit à ses disciples, il a dit, prenez des corbeilles après que tout le monde eut mangé. Puis il dit, allez ramasser les morceaux qu'il y a. Afin que rien ne se perde. Dieu ne gaspille pas. Dieu est un économe. Dieu ne produit pas juste pour produire. Le monde fait ça. Dieu ne produit pas juste pour produire. Donc, Dieu a créé un univers dans lequel l'homme a essayé d'aller voir la genèse de cet univers-là, c'est-à-dire ce que l'homme appelle le Big Bang, en envoyant des télescopes très puissants dans l'espace, puis ils se sont juste aperçus que c'était encore plus grand qu'ils pensaient, puis que c'était plus vaste. Pourquoi Dieu a créé un univers? Pour qu'il n'y ait qu'une terre habitable. On va regarder ça un peu plus loin. D'accord? Donc, 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, nous dit, « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre de présent sont gardés et sont réservés. » Pourquoi? Pour le feu. Réservés par une purification par le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. L'apôtre Pierre établit une relation directement après ça entre le déluge d'eau qui a couvert la terre, dont on trouve plein de places aujourd'hui par des fossiles qui se trouvent sur des montagnes et un peu partout. Pierre fait une relation directement avec la destruction du monde antidiluvien, avec la destruction du monde à la fin des temps. Et je vous dis qu'à la fin des temps, il restait des petits bouts de boue là, après le déluge. À la fin des temps, certains éléments peut-être vont rester. Lors du déluge, les eaux ont jailli du grand abîme que la parole de Dieu nous dit. L'eau a tombé d'en haut et a jailli d'en bas aussi. Ceux qui pensent que le déluge, il a juste tombé des troncs d'eau, comme certains archéologues disent que c'était sectoriel. En tout cas, si c'était sectoriel, à peu près toute la totalité des peuples ont une histoire antique de déluge. Si on prend l'épopée de Gilgamesh, on pourra prendre plein de choses. La seule qui tient la route, on s'entend que c'est le déluge de Noé. Gilgamesh aurait beau monter d'un arbre, là. Mais soyons clairs, là. La Bible nous dit, Pierre relie le déluge de feu de la fin des temps au déluge d'eau qui est arrivé dans l'Antiquité d'avant. L'eau a jailli d'en haut et a jailli d'en bas. On pourrait facilement penser que lorsque la terre, le monde d'aujourd'hui va être consumé, le feu va jaillir du ciel, puis va jaillir des entrailles de la terre. Beaucoup disent que notre noyau terrestre serait une bombe incendiaire en fusion constante. Vous pouvez tirer vos propres conclusions. La Terre sur laquelle on marche serait semblable à une gigantesque bombe incendiaire. Est-ce que c'est possible que ça vienne du haut et du bas? Tout à fait. Ce que le Tout-Puissant a fait dans le temps de Sodome et Gomorrhe pourrait se révéler à l'échelle mondiale. Au jour de Lot, la plaine a été détruite, les villes ont subsisté, mais il en sera peut-être ainsi à la fin des temps. Le monde va être détruit en entier. On ne parle pas des villes là, maintenant, mais on parle qu'à la fin du monde, quand Dieu va consumer la terre avec les œuvres qu'elle renferme, il est possible qu'il transforme alors certains éléments de l'univers actuel au point qu'ils vont rentrer dans le nouvel ordre créationnel de Dieu étant purifié. Nouveaux cieux, nouvelle terre, infiniment supérieurs à l'univers de présent, c'est-à-dire que les éléments vont se composer de choses qui ne se dégraderont pas. La Bible, ici je vous fais une petite note, nous dit qu'il n'y aura plus de mer. On va avoir un fleuve, mais il n'y aura plus de mer parce que c'est sûr que la taille de la Nouvelle Jérusalem, dont on prendra la description plus tard, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais dont on prendra la description plus tard, à la taille de la Nouvelle Jérusalem, elle ne pourrait pas rentrer sur un continent, sur un de nos continents. Ils ne sont pas assez grands. Il faut redessiner la géographie terrienne. Ne vous cassez pas la tête. Celui qui est capable de faire, va faire. Celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, ne rencontrera pas une difficulté là. Donc, le verset 3 qui nous dit le tabernacle, et j'y reviens, ce terme-là correspond dans le Nouveau Testament à l'habitation de nous. Jusqu'à temps que ce soit dans l'Apocalypse de cette nouvelle terre-là, correspondait dans l'Ancien Testament à l'habitation dans un tabernacle transportable, soyons clairs. Le tabernacle explique quoi? Une réalité incontestable. Dieu habitera en permanence dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi on pousse encore là-dessus? Apocalypse 21-22 nous dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La Nouvelle Jérusalem, construite avec des matériaux parfaits, des matériaux d'une sainteté absolue, des matériaux qui échappent à notre entendement, la parole de Dieu, après avoir présenté cette nouvelle ville-là, cette nouvelle Jérusalem nous certifie que toutes choses sont nouvelles, comme on a lu. Toutes choses, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses vont être nouvelles. Et dans l'état éternel, il n'y aura plus de larmes, de deuil, de douleur, parce que la mort ne sera plus. Dans cette nouvelle éternité-là, les larmes seront inconnues, puisque la disparition du péché entraînera nécessairement avec le péché celle de la souffrance du péché, qui en est le fruit. De plus, la mort qui est causée par le péché disparaîtra elle aussi. Les anciennes conditions de vie seront définitivement abolies. Dans l'éternité future, et j'ai atteint mon âge, je vais m'arrêter là, et dans l'éternité future, les damnés vont avoir cessé d'exister, mais ils seront pas cessé d'exister en voulant dire qu'ils n'existeront plus, là, mais ils ne seront plus avec nous. Mais ils ne cesseront pas pour ça d'exister, justement, mais pas à notre niveau, soyons clairs. Dieu et ses rachetés sont destinés à vivre éternellement dans une ville préparée par Dieu. Les damnés, eux, vont vivre aussi dans un feu préparé pour le diable et ses acolytes. Ce n'est pas que Dieu voulait les envoyer. Là, c'est qu'eux ont fait le choix d'y aller. Je disais, dans une intervention que j'ai faite cette semaine à l'Église, je disais, il n'y a pas de neutralité dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. On est dans un royaume ou on est dans l'autre. Si on dit, je n'ai pas de royaume, tu as fait par-delà un choix. Donc, la semaine prochaine, je vais arrêter ici. La semaine prochaine, on va prendre plus en détail un long chapitre où je vais vous expliquer un peu plus en détail les hommes avec le tabernacle. On va voir qui sont-ils, comment ils ont entré dans cette éternité-là et que vont-ils faire dans cette éternité-là. Je vous ai dit, et je vais vous le répéter la semaine prochaine, Dieu n'a pas de plan B. Le plan A a été différé de quelques milliers d'années. Mais le plan A que Dieu avait, il ne l'a pas transformé en plan B. Ça va rester un plan A. C'est-à-dire, Dieu va accomplir ce qu'il s'était proposé d'accomplir. C'est-à-dire, une autre forme de créature qui n'était pas angélique, ça a été différé. L'homme, par son péché, a différé le plan, mais ne l'a pas aboli. Dieu va reprendre, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, Dieu va reprendre ce temps-là, va reprendre ce plan-là, je veux dire, et va le reprendre avec des hommes, des femmes qui vont avoir pouvoir de recréer, de refaire, de mettre en place ce que Dieu avait prévu avec Adam et Ève. On va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, on va regarder un peu plus en détail cette partie-là. Il devrait nous rester environ la semaine prochaine et probablement l'autre. Et ensuite de ça, je suis en train d'organiser d'autres choses. Pandémie n'est pas terminée. Pandémie n'est pas terminée, ça veut dire que le pasteur André se retrouve toujours seul devant son ordinateur. Quand le temps de pandémie sera terminé, on reprendra nos choses, Dieu voulant, en présentiel, comme ce nouveau mot s'est installé, en présentiel, parce que c'est toujours une façon plus, je vous le dis tel quel. En tout cas, c'est moins agréable peut-être pour les gens qui y sont, plus agréable pour le prédicateur, qui voit un peu les interactions des gens. Comme ça, ça me permet de mieux répondre quand je vois les interactions, peut-être au point d'interrogation que je lis dans vos visages. Soyons clairs. Pour l'instant, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va reprendre avec le chapitre 21, les versets 9 à 27, et on va donner une explication encore plus complète concernant certaines choses qu'on a vues ce soir. Merci, Seigneur Jésus, de l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de s'assembler via un médium, Seigneur, par lequel, Seigneur, il y a des lacunes, mais Seigneur, qui nous permet tout de même, Seigneur, de pouvoir donner ta parole. Qui nous permet, Seigneur, tout de même, Seigneur, de pouvoir prendre soin, un tant soit peu, Seigneur, de l'enseignement, Seigneur, que ton peuple reçoit. Seigneur, je te demande, Seigneur, que ta parole puisse s'installer profondément en nous, nous porter à réflexion, nous amener, Seigneur, à réfléchir sur notre propre éternité, sur notre investissement dans le royaume de Dieu. Seigneur, c'est toi, Seigneur, dans ta parole qui a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous prendre avec moi. Et il y a plusieurs interprétations qui ont été données. Mais le jour où le tout sera complété, où le dernier pécheur se sera repenti, ce sera vraiment le moment où cette parole-là annoncée par toi trouvera sa plein accomplissement. Que nous soyons des gens, Seigneur, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, Seigneur, des vieillards, bien au fait de ta parole, bien obéissant à ta parole, afin que nous trouvions notre place dans ce merveilleux royaume, Seigneur, que tu as préparé pour nous. Je remets ton peuple entre tes mains, demandant ta bénédiction sur chacun, Seigneur, et chacune, Seigneur, qui entend ce message, sur ceux, Seigneur, qui n'ont pu y être pour quelque raison que ce soit. Bénis ton peuple, Seigneur, et que ton peuple, Seigneur, s'attache fortement, Seigneur, à toi, Seigneur. Car les temps sont courts, Seigneur. Et c'est à nous, Seigneur, d'avoir des cœurs sages pour bien connaître les temps dans lesquels nous vivons. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. On reprend le tout la semaine prochaine.